Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand rouvre aujourd'hui sur Europe 1 l'un des grands dossiers de la Seconde Guerre mondiale, celui de l'assassinat de l'amiral Darlan. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. La veille de Noël 1942, alors que les Anglais et les Américains venaient de débarquer en Afrique du Nord, le chef des forces du régime de Vichy, l'ancien bras droit du maréchal Pétain, l'amiral Darlan, qui venait de se rapprocher des Alliés, ce haut responsable opposition ambiguë, était assassiné à Alger par un étudiant royaliste âgé de 20 ans, qui a donc armé la main du jeune assassin. Bien, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui.
Et un certain nombre d'hypothèses ont été formulées d'ailleurs à ce propos.
Oui, et certains chercheurs ont cerné, je pense, la vérité d'assez près. Les principales questions dans cette affaire ont porté d'emblée sur le degré d'implication de deux personnalités, le comte de Paris, prétendant au trône de France, et bien sûr le général de Gaulle en personne. Mais vous allez voir qu'en vérité, cette grande énigme pose bien d'autres questions.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La Seconde Guerre mondiale, la politique de la France se fait à Vichy, évidemment, pour le pays vaincu autour du maréchal Pétain, à Londres, naturellement, avec la France libre autour du général de Gaulle, mais aussi, on l'oublie souvent, notamment à partir de 1942, à Alger, véritable laboratoire de la libération. Eh bien, à l'automne 42, après donc un peu plus de 2 ans d'occupation, la nouvelle se répand parmi les personnes très informées que les Américains et les Anglais préparent un débarquement imminent de troupes en Afrique du Nord. Alger, du coup, devient un enjeu stratégique décisif. Or, au premier rang de ces personnes très informées dont je parle, se trouve un ancien chef de gouvernement de Pétain, il l'a été jusqu'en avril, encore chef des forces de Vichy, et qui a longtemps été le bras droit et le dauphin désigné du maréchal, c'est un marin converti à la politique, l'amiral Darlan. Personnalité éminente, extrêmement controversée, on va y venir dans un instant, qui travaille avant tout à sa propre carrière. Il a été collaborationniste tant qu'il a cru en la victoire de l'Allemagne et des forces de l'Axe, et maintenant qu'il sent le vent tourner, il se rapproche activement des Alliés. Pour résumer d'un trait, je dirais qu'il était chez Hitler à Berchtesgaden en mai 1941 et qu'il sera à Alger aux côtés d'Eisenhower lors du débarquement anglo-américain de novembre 1942. Précisons-le, ce sont des contingences familiales qui officiellement l'ont amené à Alger quelques jours avant le fameux débarquement. En effet, son fils, Alain Darlan, qui d'habitude vivait en Tunisie, est atteint de polio et il a dû être transféré à Alger pour y être hospitalisé. Son père arrive donc de Vichy le 15 octobre pour le voir et le hasard, on va dire, fait bien les choses, puisque ça veut dire en effet que Darlan est sur place le 8 novembre lors du débarquement anglo-américain. Sur place pour aussitôt neutraliser la contre-offensive française et s'entendre avec les Américains. Car Darlan a soudain pris ses distances avec les directives officielles de Vichy, et il prend sur lui d'approuver l'initiative des Alliés. C'est tout à fait inattendu, ça, comme situation. Initialement, le militaire français que les Alliés avaient prévu de mettre au commandement en Algérie, c'était le général Giraud. Et celui qui, depuis Londres, entendait bien prendre le contrôle politique d'Alger libéré, c'était le général de Gaulle. Et voilà donc Darlan qui vient leur faire obstacle et qui, du fait de sa légitimité officielle et de son poids politique, s'impose et devient l'allié objectif des Américains, à défaut de supporter les Anglais dont il reste, disons-le, l'ennemi irréductible. Darlan est donc devenu, pour les partisans de Giraud comme pour ceux de Gaulle, l'homme à abattre, et je n'emploie pas l'expression au sens figuré. Ce qu'il faut dire à ce stade, c'est qu'une autre personnalité inattendue s'est imposée depuis peu à Alger, à l'appel du petit groupe de personnalités françaises, on l'appelle le groupe des 5, qui a facilité le débarquement du 8 novembre. Cette personnalité, c'est le prétendant au trône de France, le prince Henri d'Orléans, comte de Paris, qui est venu du Maroc pour s'installer chez le patron de la police algéroise, Henri d'Astier de la Vigerie. Or, il se trouve que le frère d'Henri d'Astier, c'est le général d'Astier de la Vigerie, qui est à Londres avec le général de Gaulle. Or, le général d'Astier a fait le voyage de Londres à Alger, où il rencontre plusieurs personnalités, dont le comte de Paris. On est donc à ce moment-là dans une sorte d'effervescence inouïe qui suit le débarquement d'Afrique du Nord. On peut dire que pendant ces quelques semaines, les complots succèdent aux complots en vue de prendre le pouvoir à Alger, avec sans cesse en ligne de mire celui qui gêne tout le monde, l'amiral Darlan. Or, si l'on en croit le témoignage signé de l'épouse d'Henri d'Astier à Alain Decaux, le comte de Paris, lui-même alité pour une crise de paludisme, aurait dit le 21 décembre, donc 3 jours avant le meurtre, il aurait dit au couple Astier et à un ami de la famille, l'abbé Cordier, je cite, « L'amiral Darlan doit être éliminé, il doit disparaître ». Et Madame d'Astier ajoute, « Mon mari ayant posé la question par tous les moyens, le comte de Paris répéta « par tous les moyens ». Mon mari, après un silence, s'est adressé à l'abbé et lui a dit « Alors l'abbé, à vous de jouer ». Vous commencez à réaliser pourquoi il n'est pas possible d'imaginer que l'attentat dont va être victime l'amiral Darlan la veille de Noël soit seulement le fait d'un jeune homme isolé. Car, évidemment, Darlan va mourir. Alors avant de vous raconter les circonstances de son assassinat, j'aimerais revenir en compagnie de Michel Cointet sur sa vie, sur sa carrière et sur l'étrange situation qui est la sienne à Alger.
Et avec votre invité Franck sur Europe 1, Michel Cointet, qui est professeur honoraire à l'Université de Tours, spécialiste de la France de l'occupation et auteur notamment de Nouvelle Histoire de Vichy, 1940-1945 chez Fayard.
Bonjour Michel Cointet.
Bonjour.
Merci beaucoup de venir éclairer notre lanterne sur une des personnalités les plus complexes de cette période de l'occupation, François Darlan, donc cet amiral devenu politique. D'ailleurs, aux yeux des marins, j'ai quelques amis dans la marine qui disent que Darlan était un peu un marin de salon. Hein. Ça n'était, il avait jamais commandé de bâtiment en opération notamment.
Il y a peut-être quelques jalousies entre marins comme dans tous les lignes, ça, finalement. Oui. Oui, il y avait, on disait qu'il y avait un amiral qui n'avait jamais connu l'amour, c'était Esteva, et un amiral qui n'avait jamais connu la mer, c'était Darlan. C'est sans doute exagéré pour le deuxième, le premier je ne sais pas. C'est sans doute exagéré parce qu'il a eu quelques temps de commandement, il a commandé l'escadre de l'Atlantique, pas très longtemps, mais enfin il l'a quand même commandé, et c'est honorable. Mais effectivement, il avait plutôt navigué dans le monde politique, dans le monde parlementaire et place de la Concorde au ministère.
Et oui, voilà, moi j'ai fait 3 ans de marine et ça m'est arrivé, n'est-ce pas, chantait Charles Trenet. Alors, il est né Darlan dans le Sérail, ça il faut bien expliquer ça.
Oui, il est né dans un milieu politique, son père a été notaire et il a été garde des Sceaux. Il est surtout un homme du Sud-Ouest.
De Nérac, il est né à Nérac.
À Nérac, lieu fertile finalement en vocation politique. Son père n'a pas eu une très belle carrière politique, mais il a noué amitié avec Georges Legge, grand ministre de la Marine, et c'est Georges Legge qui a fait en partie la carrière politique de Darlan et qui lui a apporté d'ailleurs son conseiller privé qui a eu une grande influence sur son esprit, Henri Moisset, qui est peu connu parce qu'il n'a laissé aucun papier. Et Darlan a donc été très important sous la Troisième République. C'est lui, au fond, on peut dire, qui est le créateur de la flotte française, qui est une flotte magnifique.
Oui, je relisais là dans les mémoires.
840 000 tonneaux.
C'est ça,
une plus grandes flottes du monde et très moderne.
Je lisais sous la plume d'un ancien premier lord de l'amirauté, de Churchill en personne, que Darlan avait restauré la flotte française à l'aube de la guerre, à l'image de ce qu'elle avait été au meilleur temps de la royauté française, disait-il.
Oh, c'est tout à fait exact, avec des bâtiments, enfin surtout des cuirassés. Bon, on n'a pas vraiment de porte-avions, on a l'équivalent d'un petit porte-avions, les Wilburton, mais enfin, c'est pas grand-chose. C'est une flotte qui doit surtout naviguer en Méditerranée. Mais elle est moderne et surtout, les officiers sont de très grande qualité. C'est une puissance et elle est invaincue en 1940, puisque l'armée de terre est invaincue. Alors, Darlan le répétait un peu trop. Hein. Moi qui ai dirigé une flotte invaincue, ça plaisait pas trop à l'armée de terre.
Évidemment,
toujours nos jalousies. Mais c'est un amiral, c'est un homme qui a fait une carrière fulgurante dans la marine et qui a été nommé chef d'état-major des forces navales en 1936 par le Front populaire, voilà. Quand même, dans des circonstances un peu douteuses d'ailleurs, qu'on lui a beaucoup reproché.
Son père a été un des pontes de cette Troisième République. Il est né dans ce milieu franc-maçon, radical. Il est très difficile à cerner sur un plan politique. On a l'impression qu'il change quand même assez volontiers de fidélité en fonction des régimes. C'est un homme qui, en quelque sorte, va mettre sa carrière au premier plan. Et lorsque le maréchal Pétain, en 1940, lui propose un portefeuille, évidemment, ça va sans doute décider de son engagement.
L'homme, finalement, moi, je le dirais qu'il est vaguement radical-socialiste.
Voilà, oui.
Il n'est pas franc-maçon, il est laïque, mais il n'est pas du tout hostile à l'Église. Au contraire, parce qu'il voit le rayonnement français outre-mer par les congrégations religieuses, et il n'est pas du tout celui qui a le premier remboursé les déplacements des religieuses, d'ailleurs. Oui. Et il n'est pas vraiment anticlérical, il est un petit peu anticlérical, il trouve qu'il y a un peu trop de messes à Vichy, il s'y ennuie, mais c'est un homme finalement plutôt sceptique, et qui voit, alors est-ce qu'il voit sa carrière personnelle? Certes, oui, mais je crois surtout il voit le développement de la marine. On dit qu'il a épousé la mer, qu'il a épousé la marine, et c'est sa seule famille. Il était orphelin très jeune de mère, il a été mis en pension à l'âge de 10 ans, il n'a jamais vraiment connu une vie familiale intime, même si sa vie conjugale est réussie, et c'est un homme qui n'aime que la marine.
Alors c'est un homme qui n'aime que la marine et qui va devenir le dauphin du maréchal Pétain. Nous y venons dans un instant.
Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à l'amiral Darlan, toujours en compagnie, Franck, de Michel Cointet.
Et oui, Michel Cointet qui est notamment l'auteur d'un livre passionnant qui est paru il y a quelques années chez Perrin, qui s'appelle De Gaulle et Giraud, l'affrontement. Alors Michel Cointet, il faut dire que, on va aller assez vite sur cette partie, mais il faut bien préciser que l'amiral Darlan devient le premier, enfin pas premier ministre, mais le chef du gouvernement de Vichy. Donc c'est très...
Oui, en général, on pense, bon, il y a Pétain, il y a Laval. Et puis Darlan, il est entre les deux. Bon, si vous
faites le compte... Un premier Laval et un deuxième Laval, en quelque sorte.
Le 13 décembre, il est renvoyé parce que finalement, il ne convient pas tout à fait à la politique de Pétain. Et il appelle l'amiral Darlan. Enfin, l'amiral Darlan s'impose, plus exactement. Et
alors, avec toute une équipe de technocrates, d'ailleurs, il faut dire. C'est la naissance de la technocratie en France.
Ce qui est intéressant, c'est quand vous faites le compte, il est resté quand même 16 mois,
oui.
Ce qui compte beaucoup quand même sur les 4 années.
Et
ce
jusqu'en
sont 16
avril
mois très
42,
importants,
donc,
puisque ça coïncide avec l'entrée en guerre de l'Allemagne en URSS. Ce sont quand même des événements très importants. Il doit affronter le Parti communiste, etc. Et il a la volonté, donc, de diriger la politique extérieure. Et moi, j'ai dit à la suite, finalement, de l'historien Henri Michel, que ça a été certainement le plus collaborateur de tous. Alors, ça va peut-être choquer les auditeurs. Je crois qu'il a été plus collaborateur que Laval lui-même, puisque c'est dans le domaine militaire. Il a prêté les aéroports. C'est quand même important de prêter les aéroports de Syrie à des avions allemands qui allaient en Irak. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, il a un petit peu reculé parce qu'il n'a rien obtenu. Et surtout, il est renvoyé par le maréchal Pétain. Enfin, poliment, disons que
oui,
c'est...
Oui.
Laval qui revient, il est mis à l'écart parce qu'on trouve que Pétain trouve qu'il ne lui a pas assez apporté, qu'il n'a pas assez bien réussi avec les Allemands, qui s'en sont lassés et qui n'y ont pas fait énormément de concessions.
Mais il reste quand même aux commandes, si je puis dire, des forces de Vichy qui sont
oui,
évidemment...
Alors il n'est plus dans le gouvernement, mais il est commandant en chef quand même des forces de mer, de terre et de l'air. Alors l'air, il n'y a pas grand-chose. la terre, en France, c'est 70 000 hommes à peu près. Et puis, il faut pas oublier qu'en Afrique, il y a une armée d'Afrique grâce à Végan de plus de 100 000 hommes. Ça, c'est très important.
C'est même essentiel.
Et puis, il y a la flotte qui est basée à Toulon. Alors évidemment, ça disparaîtra après le 8 novembre puisque l'armée d'armistice est dissoute le 27 novembre quand les Allemands entrent en zone sud et la flotte saborde pour ne pas être prise.
Il faut que, si vous permettez, que je sous-titre un peu pour les auditeurs qui ne seraient pas très au fait de toute la chronologie de cette Seconde Guerre mondiale. Le 8 novembre 42, les Anglo-Américains débarquent en Afrique du Nord et dans la foulée le 11 novembre, les Allemands décident d'envahir la zone libre française en rétorsion ou en prévention, comme on voudra. Et à partir de ce moment-là, évidemment, c'est la guerre elle-même qui bascule complètement.
Oui, les Allemands mettent comme prétexte que les Américains vont débarquer. C'est pas possible. Mais enfin, ils disent on va garder la côte méditerranéenne et immédiatement à Vichy. Alors, l'amiral Darlan fait un appel à la marine. Il dit à la marine, rejoignez-moi. La marine ne le rejoint pas, sauf deux sous-marins, le commandant Lherminier avec le Casablanca. Mais il n'y a que deux sous-marins. Oui. Et l'ensemble de la flotte est resté à Toulon, où malheureusement elle a disparu, elle s'est sabordée pour ne pas être prise par les Allemands.
Oui. Alors il y a cette circonstance incroyable d'un Darlan qui se trouve à Alger quelques jours avant le débarquement anglo-américain. Il y est pour des raisons familiales, mais il y est surtout parce qu'il sait ce qui va se passer.
Écoutez, tout le monde dit que ce sont des raisons familiales, une rechute brutale
de la
poliomyélite de son fils. Il est mourant, il serait mourant. Bon, c'est possible, Enfin, il s'est rétabli, ça ne veut pas dire non plus. Et effectivement, qu'on vient lui annoncer le débarquement, il est dans la chambre au chevet de son fils. Bon, moi, on ne me fera pas croire quand même que cet homme qui est à la tête de la marine et des forces de l'armée de terre n'est pas
journaliste très bien renseigné. Oui.
Bon, le général Bergeret, qui lui est, le dit très nettement, qu'il a su sans doute ce qui allait se passer, parce que la flotte qui est passée par Gibraltar n'a pas pu être inaperçue. Donc on ne sait peut-être pas exactement où aura lieu le débarquement. Je pense que c'est pas complètement par hasard qu'il est là. Il attend de voir.
Et ce qui est incroyable, c'est que alors qu'il a tellement représenté, comme vous l'avez dit, en tant que numéro 2 du régime de Vichy, il était l'homme de la collaboration avec les Allemands, le voilà qui va s'entendre avec les Américains. Et il y a un accord qui est passé avec...
Oui, d'abord il leur tire dessus. Hein. Oui, il y a plusieurs centaines de morts, quand même. C'est pas rien.
Ça dure pas très longtemps.
Non, 2 jours. Et le deuxième jour... Alors, à l'instigation, il faut bien dire, du général Juin, un homme qui jouera un grand rôle dans notre
vie politique, bien sûr,
et puis qui est un héros aussi de la bataille en Italie plus tard. Il a accepté l'armistice. Il ne pouvait pas faire autrement non plus. Il est vrai. Et surtout, le pire, si vous voulez, ou le plus intéressant, c'est que les Américains, enfin du moins Roosevelt et Eisenhower, qui est sur place, l'acceptent comme représentant des intérêts français et haut commissaire en Afrique.
Panique pour les partisans du général Giraud, pour ceux du général de Gaulle. Tout le monde est scandalisé de cette situation. Cet ancien homme de Vichy, qui est toujours d'ailleurs un homme de Vichy, qui passe dans le camp allié en quelque sorte et qui devient haut commissaire de la France à Alger, situation très paradoxale. Il se trouve donc, il réside au Palais d'été, qui d'ailleurs est très peu gardé. Alors que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient le tuer.
Ah bah oui, il est devenu un homme tout à fait modeste. Hein, d'ailleurs, maintenant, c'est un petit civil qui se fait pas remarquer. Mais je me souviens que l'amiral docteur disait de lui, quand il est en civil, il a l'air d'un percepteur. Enfin, les percepteurs, je les honore beaucoup.
Mais oui, bien sûr.
Mais disons qu'il avait un petit peu moins de prestige qu'avec sa casquette.
Qu'avec évidemment son grand uniforme d'amiral. Alors, comment et pourquoi et surtout, bien sûr, par qui l'amiral Darlan a-t-il été tué? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui nous relate maintenant sur Europe 1 l'assassinat de l'amiral Darlan.
À Alger, l'ancien palais d'été du Dey, aujourd'hui résidence du président de la République, est en 1942 une des résidences du gouverneur et c'est là que s'est installé en tant que haut commissaire de la France l'amiral Darlan. Il a installé ses bureaux dans l'annexe du palais d'été. Le 24 décembre 1942, il y a alors 6 semaines que les Anglo-Américains ont débarqué en Afrique du Nord, en cette veille de Noël, donc vers midi, un tout jeune homme au visage d'enfant se présente sous le nom de Morand à la conciergerie du palais et demande à être reçu par un monsieur de la Tour du Pin. Il se trouve que ce dernier est en congé de Noël, mauvais prétexte. D'ailleurs, le soi-disant Morand apprend dans la foulée que l'amiral Darlan vient de sortir du palais d'été, alors il n'insiste pas et il s'en va comme il était venu. En vérité, ce garçon de 20 ans ne s'appelle pas du tout Morand, mais Fernand Bonnier de la Chapelle. Il est étudiant en droit, mais il est entré dans les corps francs d'Afrique créés par Henri d'Astier dans un domaine agricole au Cap Matifou, à 20 minutes d'Alger. Coïncidence, sa petite amie réside aux 2 rues Lafayette, c'est le domicile d'Henri d'Astier de la Vigerie, c'est aussi le domicile de l'abbé Cordier, c'est là que résidera un temps le comte de Paris, bref, c'est un des nœuds de la conjuration. Bonnier de la Chapelle a donc manqué son coup une première fois vers midi. 2h30 plus tard, il est donc 14h30 ce 24 décembre 1942, le voici de retour au palais d'été. Il remplit une fiche de visite au nom d'un fonctionnaire des services et il assigne Morand. C'est de cette manière très banale, très administrative, qu'il pénètre dans la résidence du haut-commissaire qui, nous venons de le dire, était peu gardée et très mal surveillée. En vérité, elle n'était même quasiment pas gardée. C'est à 15h35 que l'amiral Darlan finit par arriver. Pour raconter son assassinat, le plus sûr est de s'en remettre au rapport écrit par le principal témoin du drame, le capitaine futur amiral Ourcade, alors chef de l'état-major particulier de l'amiral Darlan. Le rapport est destiné au fils de la victime, Alain Darlan. Voilà ce qu'écrit Jean Ourcade à Alain Darlan. « Je marchais derrière ton père. On débouchait dans une espèce d'antichambre. Le bureau de ton père était juste en face. Moi, je tournais à droite pour me rendre dans le mien. Un jeune homme bien se tenait à la porte du bureau de ton père. Je fis intérieurement la remarque qu'il n'y avait ni planton, ni huissier, ce qui était surprenant, mais tout se déroula très vite. J'avais déjà fait 2 pas dans la direction de mon bureau et dépassé par conséquent l'inconnu quand j'entendis le premier coup de feu. Je me retournais au moment même où partait le second, alors que ton père s'écroulait à l'entrée de son bureau avec un faible gémissement. Je fis un bond vers l'assassin qui se déroba, sautant par-dessus le corps de ton père pour viser de nouveau. C'est à ce moment que je l'attrapai à la gorge et au poignet. Il fit un violent mouvement pour se dégager. Nous fîmes un ou deux tours debout, accrochés l'un à l'autre, pendant lesquels il tira encore un coup de revolver qui m'effleura la joue. Puis cette rotation rapide nous sépara et il fut projeté dans l'angle de la pièce opposée au bureau. Je marchais sur lui, il baissa le bras me visant au ventre, je fis un crochet et sautai sur lui au moment même où il tira et lorsque je l'accrochais, je sentis une douleur très violente au bas-ventre, alors qu'en fait j'avais reçu la balle au haut de la cuisse. Je n'ai qu'une perception vague et imprécise de la suite des événements. J'ai dû en tombant me cogner à l'angle de la cheminée car j'avais une légère blessure au front qui n'a pu provenir que de cette chute. J'ai entendu les pas des gens qui entraient, le chauffeur d'abord puis les gardes selon ce qui m'a été dit. J'ai entendu des coups, la voix de l'assassin qui criait « ne me tuez pas » et puis plus rien. Le consul américain sur place Kenneth Pandar qui va faire l'histoire de ces journées précise « Le moment du meurtre était extraordinairement favorable à l'attentat et à ses suites. Par quel hasard les deux agents de la sûreté, préposés à la garde du haut-commissaire, avaient-ils pris la fantaisie d'aller se promener dans le jardin ? Par quel miracle une fenêtre grande ouverte en cette saison offrait-elle une issue bien tentante à la fuite du meurtrier ? Vous avouerez qu'un certain nombre de questions se posent évidemment sur les circonstances mêmes de cet assassinat. Évidemment, deux policiers ont emmené l'amiral dans sa voiture. Dallan est emmené à l'hôpital Maillot, qui est distant de plus de 3 km. Seulement, à peine à la moitié du parcours, l'hémorragie a fait son œuvre. On le voit s'affaisser brusquement. Il pâlit, il devient complètement exsangue. Il perd connaissance et il mourra avant d'arriver à l'hôpital. Alors pendant ce temps-là, le chef des brigades mobiles, le commissaire Garidacci, va interroger Bonnier. Je cite de nouveau Pandar. Il avoua tout avec un calme parfait et même plus que ne le souhaitait l'enquêteur. Le commissaire en fut effrayé. Le jeune homme s'était prévalu de hautes approbations, d'encouragement et de complicité avec de hautes personnalités en ce moment au pouvoir. Il avait déclaré avoir tué le haut commissaire après en avoir référé à l'abbé Cordier sous forme de confession. Ce prêtre mobilisé lui aurait remis le plan des bureaux du palais d'été et ceux du cabinet de l'amiral. Il lui aurait même donné l'arme et les munitions.
German Advance sur Europe 1, extrait de la bande originale du film Patton.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Bonnier avait sur lui une carte qui avait été délivrée par la Sûreté Générale et établie à un nom différent, donc ce nom de Morand dont il s'était réclamé pour entrer au palais d'été, ce qui prouve que ce document impliquait un certain nombre de très hauts responsables locaux. Il avait aussi un passeport qui était encore à un autre nom et qui, évidemment, était destiné à son éventuelle évacuation. Le numéro du passeport était sur le registre de la police et seul le nom était de fantaisie. Tout le reste était parfaitement réglementaire. Donc vous voyez qu'il y a quand même des complicités étonnantes. Des rapports existaient entre Bonnier et les services de sûreté confiés à la direction de qui, évidemment, d'Henri d'Astier de la Vigerie. Nous allons revenir sur tout cet aspect de l'histoire dans un instant. En vérité, le petit Bonnier de la Chapelle n'aura pas le temps de raconter grand-chose. Il est condamné à mort dès le 25 décembre au soir par le tribunal militaire d'Alger et il va être exécuté le 26 à l'aube. Alors, sa dernière nuit, il la passe avec deux gardes mobiles, évidemment, dans la cellule des condamnés à mort. Et voilà ce que l'un de ces deux gardes mobiles, le capitaine Gollard, va écrire. Il a fait le rapport de ce que racontait dans sa toute dernière nuit Bonnier de la Chapelle. Je suis venu une première fois au palais d'été le matin du 24 décembre et n'ai pu accomplir mon acte. Je suis venu rendre compte de cette tentative infructueuse et on m'a dit, les jours passent, il faut que Darlan disparaisse. Je suis donc retourné l'après-midi, je n'ai pas tué l'officier adjoint à l'amiral. Si j'avais voulu le faire, c'était très facile. J'avais sa tête à 5 cm de mon pistolet, c'eût été ridicule. Je n'avais aucune raison de lui en vouloir. Je lui ai tiré dans les jambes pour me défendre. Mon pistolet m'a été fourni. on m'en avait d'abord fourni un, mais soit que les cartouches ne soient pas bonnes, de bonne qualité, soit que le pistolet ne vaille rien, quand j'ai voulu l'essayer, il n'avait pas fonctionné. On m'en a alors donné un autre qui fonctionnait bien. J'aurais dû prendre une mitraillette, mais c'était trop encombrant sous le manteau. On m'a dit qu'après l'affaire, je serais pris, condamné à mort et gracié. Cependant, on m'a jugé trop vite. Il aurait fallu 2 jours pour permettre à mes amis d'intervenir. Je sais que Maître Sansonetti, mon avocat, s'y emploie maintenant. Néanmoins, ce sera une intervention bien inutile. Malgré les tentatives d'Henri d'Astier de la Vigerie, raconte Philippe Valotte dans les dossiers oubliés de la Seconde Guerre mondiale, le jeune Bonnier n'est pas libéré. Personne ne souhaite sa survie, semble-t-il. Les hommes de Vichy veulent sa mort, alors que les gaullistes ne souhaitent pas endosser la responsabilité d'un attentat qu'ils ont organisé. À 20h, le 25 décembre, Bonnier est condamné à mort. Le 26, à 7h du matin, il tombe sous les 6 balles réglementaires du peloton d'exécution au polygone du Sendai.
Évoquons aujourd'hui la mort de l'amiral Darlan, toujours en compagnie Franck de Michel Cointet et de l'historien Philippe Valotte qui vient nous rejoindre. Il est l'auteur notamment du livre « Les dossiers oubliés de la Seconde Guerre mondiale » aux éditions First.
Oui, bonjour Philippe Valotte. Alors nous le disions avec Michel Cointet il y a un instant, le moins qu'on puisse dire c'est que cette résidence du haut-commissaire français, donc ce palais d'été où résidait, où travaillait l'amiral Darlan, est très mal protégé en cette toute fin de l'année 42.
Il est très mal protégé pour une raison principale, c'est que l'amiral Darlan a refusé à l'amiral Moreau, son ami et son soutien, la constitution d'une garde armée de marine, estimant que ce serait déshonorant de se faire protéger de cette manière.
Mais il savait que sa vie était mise à prix, sa tête était mise à prix.
Il était lui-même, l'amiral, au courant de 4 complots en cours. Il y en avait en fait un nombre plus grand. Il savait que sa vie était menacée. Il savait que à Londres, on l'avait probablement condamné à mort parce qu'il était en train... En fait, il faut bien comprendre où on en est exactement à ce point de l'histoire. Et c'est ça qui est important, c'est que si Darlan triomphe, si, comme on le pense, Pétain vient à Alger, c'en est fini du général de Gaulle, et lui-même le général, dans ses mémoires, l'écrit. Si Pétain était venu à Alger, il serait rentré à Paris sur un cheval blanc.
Et en même temps, le général de Gaulle, de façon extrêmement claire, et il va même demander à un de ses plus proches collaborateurs, « Voulez-vous que je vous jure que je n'y suis pour rien ?» Il a évidemment très officiellement nié toute prise de responsabilité dans cette affaire.
Alors, là, je crois qu'on peut être assez affirmatif. La mort du général Darlan est décidée, je dirais, entre de Gaulle et Churchill d'une manière absolument certaine.
Alors, on va y venir dans un instant. Avant ça, il y a un nom qu'il faut sur lequel il faut revenir, car je l'ai prononcé un certain nombre de fois depuis le début de cette émission. Il est au cœur, sur place, de ce qui va se passer. C'est Henri d'Astier de la Vigerie, Michel Cointet.
Alors, Henri d'Astier de la Vigerie appartient à une famille extraordinaire, puisqu'il y a 3 frères d'Astier qui font de l'histoire à ce moment-là. Il y en a un en France qui dirige un mouvement de résistance. L'autre, le général François d'Astier, vient de rejoindre de Gaulle à Londres et son émissaire à Alger, où évidemment il descend chez son frère.
C'est-à-dire qu'en fait, de Gaulle envoie le général François chez Henri d'Astier.
Il l'envoie à Alger.
Enfin, il l'envoie à Alger. Il va...
Mais au lieu d'aller voir finalement Capitan, qui était sur place, et finalement qui représentait plutôt les gaullistes, il descend chez son frère. C'est pas normal. Il lui remet 40 000 $ pour faire de la propagande. Mais attention, sur les 40 000 $, 2 000 de ces 40 000 $ se retrouvent dans la poche d'Henri Bonnier de la Chapelle. Bon, c'est pour lui permettre de vivre au Maroc. Puisqu'on lui a fait des propositions, on lui a dit « vous pourrez partir au Maroc ».
Ça, c'est quand même une signature, en quelque sorte.
Pas vraiment.
Non.
C'est plus compliqué que ça. Parce que moi, je ne tiens pas pour la responsabilité de De Gaulle. Je tiens pour celle d'Henri d'Astier, mais je ne dirais pas que c'est De Gaulle. Je dirais plutôt les services secrets britanniques et Churchill. Je ne suis pas sûre que De Gaulle, finalement, il a dû laisser faire.
Je ne sais pas si Stéphane Clark nous écoute. Je ne sais pas si Stéphane Clark nous écoute aujourd'hui. Il était notre invité la semaine dernière. Nous parlions de 1000 ans de mésentente franco-anglaise. Certains de nos auditeurs vont encore dire « Eh allez, c'est encore un coup des Anglais ». Alors, j'ai aussi remarqué, mais ça c'est une simple incise que je fais, c'est une petite parenthèse. Dans un certain nombre d'assassinats, et Dieu sait qu'il y en a tout au cours de l'histoire, et que nous en avons traité des dizaines à ce micro depuis 10 ans, j'ai très souvent remarqué qu'un certain nombre d'assassinats sont accomplis au nom de très hautes personnalités, mais sans les impliquer personnellement. C'est généralement comme ça que ça se passe. L'entourage immédiat voit jusqu'à quel degré ça peut être utile et agit. Quant aux personnes elles-mêmes, il est très rare qu'elles donnent formellement l'ordre, mais souvent elles laissent faire quand même.
Oui,
il faut bien
on leur
dire,
fait
hein.
plaisir.
On leur fait grand plaisir. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, avant d'en venir aux responsabilités finales de l'affaire, on va y venir tout à l'heure, j'aimerais qu'on vienne à l'organisation même de l'attentat. Comment est-ce que ça s'est passé? Qui a armé concrètement le petit bonnier de la chapelle?
Alors,
Philippe Balode.
Oui, alors c'est un petit... On ne peut pas parler de commando parce que tout est assez informel. Mais bon, bien sûr, Henri Dacier de la Vigerie et l'abbé Cordier ont les responsabilités principales. Mm-hmm. Voilà.
Donc cet abbé Cordier...
Il appartient au troisième bureau, donc ce n'est pas quelqu'un de naïf.
C'est un abbé militaire,
ouais. Il est au troisième bureau. Mm-hmm. Voilà. Bon, et Henri Dacier de la Vigerie, lui est entré finalement au gouvernement constitué par Darlan. Qui est Henri Dacier de la Vigerie? C'est difficile à dire. Il est à la fois sans doute un gaulliste à cause de son frère François et de son autre frère Emmanuel qui dirige Libération Sud. Bon. Et il est aussi assez favorable à Giraud. Bon. Et il est plutôt à cette époque-là favorable à Giraud.
Et quelle est son attitude vis-à-vis du comte de Paris? Parce que alors, c'est quand même un autre des personnages qui se trouve là.
Alors il le connaît très bien et en fait l'objectif...
Quand on parle du comte de Paris, c'est du père de l'actuel comte de Paris, je précise.
Donc l'objectif c'est de composer un triumvirat dans lequel la présidence serait assurée par le comte de Paris, formel. La direction politique, le gouvernement, donc par le général de Gaulle, et la direction militaire, des opérations militaires, par Giraud. Voilà, voilà quel est l'objectif. Bon.
Et évidemment, il y a un homme qui gêne tout ça, c'est l'amiral Darlan, qui est un peu
Giraud quand même.
Et un peu Giraud, oui.
Il n'a rien commandé du tout. Il est en Tunisie à ce moment-là.
Absolument.
Parce qu'il ne faut pas oublier que la France est entrée dans la guerre. Ce qu'on ne dit jamais, on ne dit jamais que la France est entrée dans la guerre contre l'Axe en décembre 1942. Et on essaie, la France essaie, la France giraudiste, si vous voulez, essaie, et l'armée d'Afrique aide les Américains à chasser les Allemands de Tunisie.
Voilà.
Ça, c'est quand même.
Et le 24 décembre, vous avez parfaitement raison.
Et ça explique aussi la mentalité du jeune bonnier de la chapelle. Ce garçon de 20 ans est un exalté de patriotisme. On a dit qu'il aurait participé à la manifestation des étudiants le 10 novembre 1940. Je ne le crois pas. Enfin, il est vrai qu'il est à Paris. Hein. Il est rentré ensuite à Alger. C'est un... Tous ces petits jeunes gens, tous ces étudiants,
un jeune patriote,
ils veulent
on va
tous
dire.
S'engager dans l'armée en Tunisie pour chasser l'Allemand.
D'ailleurs, tous ses copains sont partis en Tunisie déjà, lui.
Mais il y a beaucoup d'ambiguïté dans le terme gaulliste. Être gaulliste, moi je crois que ça veut dire être patriote. Alors ça peut être giraudiste, ça peut être pour De Gaulle, mais on ne sait pas trop non plus qui
il
est
dit
De Gaulle.
Il se présente lui-même à plusieurs reprises, enfin à trois reprises, comme royaliste, Bonnier. Hein.
Il se dit royaliste parce que, bon, Henri d'Astier a une énorme influence, mais c'est quelque chose quand on voit la façon dont il a attrapé, comme une araignée attrape une mouche. Hein. Il l'a pris dans ses cafés où ces jeunes gens allaient faire un
petit peu la fête. Et puis il vient voir sa fiancée chez lui en plus,
oui,
donc ça l'aide.
Et puis il l'invitait sans arrêt, et puis il lui promet une grande carrière. Il lui a promis qu'un jour, il serait certainement ambassadeur de France. Et il partirait au Maroc avec ses 2 000 $. Et puis là, on ferait sa carrière. Et finalement, il serait un grand homme. Donc, il a véritablement... C'est une manipulation mentale. Il y a l'abbé Cordier, oui. Et puis, il y a Henri d'Astier. Mais ça fait peut-être partie des procédés des services secrets.
Mais chose tout à fait incroyable et extraordinaire, sur la tombe de Fernand Bonnier de la Chapelle, il y a écrit « Mort pour la France ».
Il a été déclaré par le général de Gaulle plus tard qu'il avait agi au nom des intérêts de la France. Et Henri d'Astier de la Vigerie a été fait compagnon de la Libération en octobre 1943.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et je vous rappelle que nous rouvrons aujourd'hui sur Europe 1 l'un des grands dossiers de la Seconde Guerre mondiale, celui de l'assassinat de l'amiral Darlan.
Donc pour ceux qui nous rejoindraient un peu tard, l'amiral Darlan a été assassiné le 24 décembre 1942 à Alger par Fernand Bonnier de la Chapelle. On sait qu'il y avait évidemment derrière ce bras armé, il y avait tout un complot, toute une conjuration pour parler très exactement. D'où venait l'ordre initial? Alors l'ordre suprême, c'est ça qui fait débat évidemment, et je crois que nos deux invités ne sont pas tout à fait d'accord. Alors, ce qu'il faut commencer par dire, Philippe Balode, c'est que on n'a pas fait grand-chose pour sauver la peau de Bonnier de la Chapelle. Hein. Il est condamné dès le 25, exécuté le 26. Mais pourquoi l'a-t-on condamné si vite, comme si on voulait l'évacuer,
voulu,
non?
On a voulu l'éliminer pour éviter qu'il parle.
Mais voilà, alors, c'est ça.
Bon,
hein.
C'est très clair. Bon, et après, comme vous le savez, en 45, la cour d'Alger annulera le jugement de la cour martiale de 42, et ensuite, en 53 seulement, il sera décoré à titre posthume de la Croix de guerre et de la médaille militaire.
Ce qui est un drôle d'hommage à rendre à l'amiral Darlan au passage. C'est assez extraordinaire cette affaire. Alors, Bonnier a donc disparu, si je puis dire. Que se passe-t-il d'un point de vue politique là? C'est Giraud finalement. Alors le oui. comte de Paris, d'abord disons-le, parce qu'il y a toujours cette histoire des ambitions du comte de Paris. Il se présente pour être nommé remplacer Darlan.
Tout à fait. Alors je crois que ce qu'il faut bien faire comprendre aux éditeurs, c'est que les deus ex machina, comme on dit, de toute cette opération d'assassinat de Darlan, c'est évidemment François d'Astier de la Vigerie. Il est à Alger du 19 au 21.
Mm-hmm. Le frère d'Henri. Hein. Celui qui vient de Londres.
Le frère d'Henri et d'Emmanuel, Libération Sud. Mm-hmm. Bon. Et donc, lui, il est là pourquoi ? Pour faire exécuter Darlan. Et il donne plusieurs ordres. Le premier à son frère, le second au comte de Paris, et il a probablement un entretien très important avec le général Mast, qui est le chef d'état-major général de l'armée française à Alger, et qui est en fait l'intermédiaire entre Giraud et De Gaulle.
Eh oui.
Bon. Et il faut
donc
aussi...
il est à un poste vraiment très crucial, Mast.
Mast est à un poste crucial, et d'après les informations très précises que j'ai, l'ordre final est bien donné par lui, parce qu'il faut que ce soit un ordre, que ce soit un ordre militaire qui soit donné à un autre militaire, en l'occurrence Bonnier, pour qu'il ne puisse pas désobéir. Il n'a pas le choix de... Bien sûr, il est manipulé par Cordier. Bien sûr, il est manipulé... Enfin, il est, on va
complètement,
dire, complètement intoxiqué, je dirais, par Henri d'Astier de la Vigerie. Mais il faut probablement un ordre militaire venant de Mast pour que l'affaire soit possible, in fine. Alors... Et on a... Alors, je tiens cette révélation d'un entretien de la semaine dernière. Avec un colonel étant à Alger ce jour-là et qui participe comme moi aux travaux de l'IHEDN.
Et qui donc était présent
était présent ce jour-là.
Donc pour l'instant, c'est un témoignage oral de cet officier, cet officier supérieur qui vous dit que le général Mast a donné l'ordre final.
Oui.
Ça vous paraît plausible, vous, ça, Michel Cointet ?
Oh, ben pourquoi pas ? Des tas de gens se sont vantés, finalement, d'avoir donné cet ordre. alors, il y a quelqu'un, quand même, c'est une chose qui est un peu curieuse dans l'affaire, c'est le général Giraud, hein, parce qu'il se trouve en Tunisie. Et alors là, on ne l'a pas dit tout à l'heure, il revient à toute allure, et en fait, on fait exécuter Bonnier, bien sûr, pour lui fermer la bouche, hein, ça c'est très clair, je suis d'accord, mais en même temps aussi parce que le général Giraud a quand même peur d'un complot beaucoup plus vaste à certains égards, et donc il réunit tout de suite le conseil impérial qui est composé des différents gouverneurs, parce que c'est l'espace libre à ce moment-là, que l'Afrique, les différents gouverneurs français, et il est nommé au commandant civil et militaire, ce qui faisait un peu rire certains en disant près de l'école militaire, il y avait un tailleur qui est un haut tailleur civil et militaire. Ça faisait un peu sourire les gens que ce titre qui est un peu étrange. Mais il a tous les pouvoirs à partir de ce moment-là. Et là, alors là, le comte de Paris, c'est fini. Il reçoit le comte de Paris et il lui dit
gentiment le renvoyer.
Il lui dit écoutez, petit jeune homme, vous n'y comprenez rien. De Gaulle s'inclinera devant moi. Vous ne comprenez rien à la politique. Et puis, de toute façon, vous savez, il y a une loi d'exil.
Il a 34 ans, le comte de Paris, à l'époque.
Et il y a une loi d'exil. Et donc, cette loi d'exil, je peux l'appliquer à Alger. Donc, le comte de Paris, on le laissera un petit peu guérir son paludisme. Et puis, on le reverra au Maroc.
La loi d'exil interdit aux descendants de dynasties qui avaient régné sur la France, à l'époque, de se retrouver en métropole. Ça durera jusqu'en 1950. Mais effectivement, on aurait pu étendre cette loi d'exil au territoire de l'Algérie. Alors, vous nous dites, vous, Philippe Valode, c'est De Gaulle, au fond, qui est derrière tout ça. Est-ce que vous pouvez imaginer que ce soit le général De Gaulle qui aurait donné lui-même l'ordre, pas l'ordre opérationnel, vous nous avez dit que c'est Mast, mais l'ordre de liquider Darlan.
L'ordre vient de De Gaulle et Churchill. Le personnage qui joue le rôle fondamental, c'est donc François d'Astier de la Vigerie. Et ensuite, on est en cascade.
Oui.
Son frère Henri, l'abbé Cordier, bien sûr, le général Mast, et puis le comte de Paris qui aussi lui donne l'ordre. Voilà.
Et le général de Gaulle, lui, a toujours nié avoir été impliqué dans l'affaire. Et vous nous dites que c'est plutôt les services secrets britanniques et Churchill lui-même, alors, Michel
Cointet ? Enfin, si vous voulez. Bon, on aura jamais la preuve de la part de De Gaulle. Bon, par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois pas quand l'amiral De Gaulle n'était pas là. Alors, il n'était pas près de son père. Il dit, c'est pas lui, c'est pas possible, c'est pas son style. La raison d'État, ça peut exister aussi, même s'il n'y a pas encore d'État. Je pense, moi, je penserais plutôt pour les services secrets britanniques, dans la mesure où ils ont plus de moyens que De Gaulle lui-même. N'oublions pas, De Gaulle quand même est assez dépourvu de moyens,
Quel était l'intérêt direct des Anglais à liquider Darlan, puisqu'après tout, les Américains s'étaient entendus.
C'est énorme. On a la correspondance quand même entre Churchill et Roosevelt. Et ça, c'est une question quand même très large. Churchill écrit à Roosevelt, mais vous n'allez pas quand même habiliter tous les Quislings de l'Europe. C'est-à-dire, si Darlan reste, et peut-être Pétain, eh bien, ce sont les gens qui ont été là au pouvoir pendant la guerre qui seront promus. Et promus par qui? Par les Nations Unies, qui mettent sans avant la morale. Et Churchill écrit dans cette lettre à Roosevelt, c'est une question de morale. Nous incarnons une certaine morale et nous ne pouvons pas accepter que le pouvoir, quand la libération de l'Europe se produira, parce que Alger, c'est une première libération, passe à des Quislings.
Merci beaucoup, Michel Cointet. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur notamment du dictionnaire historique de la France sous l'occupation, avec votre mari, chez Talendier, et puis Les dossiers oubliés de la Seconde Guerre mondiale, Philippe Valode et Robert Arnaud, c'est chez First.